11h40 live à RadioX.com, 1-877-440-2464 pour nous joindre en studio si vous avez des commentaires. La semaine dernière, on parlait avec Dr. Grégoire Bernèche. On parlait de cette pénurie de médecins ou cette fausse pénurie de médecins. Selon M. Bernèche, ça semblait être plutôt une fausse pénurie de médecins qu'on avait. Et à ce moment-là, on a reçu un courriel du Dr. Marc Lacroix à des cliniques médicales Lacroix qui dit « J'aimerais ça intervenir. Malheureusement, on a manqué de temps. » Mais finalement, M. Lacroix est avec nous en studio ce matin. Bonjour M. Lacroix, comment ça va?
Ça va très bien, vous?
Est-ce que ça existe, ça, la pénurie de médecins, ou encore, est-ce que ça existe, ça, la fausse pénurie de médecins? Juste allumer son micro, M. Breton, s'il vous plaît.
Exact. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, c'est sûr qu'en écoutant l'entrevue vendredi dernier, je sursautais un petit peu certains égards de ce qui était apporté par le Dr. Bernèche. Notamment en ce qui a trait à la pseudo-pénurie de médecins au Québec. Mm-hmm. Pour ce qui est de ma part, en tout cas au niveau de la médecine familiale, je ne vois vraiment pas de trop plein là. Et c'est pas moi qui le dis, là. L'FMOQ récemment a sorti qu'il manquait à peu près 1100 à 1200 médecins de famille au Québec. Et moi, je prétends que c'est plus autour de 1500-2000, mais la fédération elle-même dit qu'il en manque 1100. Et du chômage pour les médecins de famille au Québec, là, je pense pas qu'au cours des prochains 10 ans, j'en verrai vraiment poindre à l'horizon. Peut-être que pour certaines spécialités, il y a éventuellement des problèmes pour les médecins à se trouver du travail sur le territoire québécois, mais c'est plus peut-être par réduction des postes que le ministère va leur donner que par manque de besoin de la population.
Bon, c'est connu. On a côté spécialiste, on n'a aucun problème parce que les étudiants en médecine vont trop se spécialiser pour ce qu'ils ont envie d'aller en médecine familiale. On a, je pense que c'est 53% de d'étudiants en médecine qui s'en vont comme spécialistes pour 47% qui s'en vont en médecine familiale. Alors, on a déjà un problème là. Il me semble que naturellement, il devrait y avoir plus de généralistes que de spécialistes. Il me semble que c'est le gros bon sens.
Ben, c'est évident. En plus du fait qu'on a un territoire énorme à couvrir et que bien souvent en région, pour ma part, j'ai fait 10 ans en région, la plupart des petits hôpitaux en région dépendent des omnipraticiens pour faire l'ensemble des soins, que ce soit de l'urgence, des accouchements. 80% des accouchements au Québec sont faits par des médecins de famille. 80% des gardes d'urgence sont assurés par des médecins de famille au Québec. Le profil de pratique des médecins de famille au Québec est particulier par rapport au profil moyen au Canada. 40 à 45 % du temps d'un médecin de famille va être en milieu hospitalier au Québec parce qu'il y a des contraintes qui
obligent les médecins. Mais ça, je comprends pas. Bon, d'abord, on va clarifier tout de suite. Les Québécois vivent en ville.
Oui.
À 80-85%. Donc, les régions, c'est bien joli, mais massivement, ça se passe à Montréal, à Québec, à Hull, à Sherbrooke, bon, etc. Et donc, à ce moment-là, la question des régions, c'est exceptionnel et on pourrait le traiter comme exceptionnel. Mais en ville, comment expliquer encore là le même problème?
Écoutez.
qu'est-ce qu'ils foutent les généralistes à l'hôpital? En France, par exemple, ils sont dans leur bureau.
Voilà.
Ils reçoivent
ailleurs au Canada. Hein,
oui, savez. Oui, oui. Alors, j'aime bien donner l'exemple de la France parce que j'ai vu beaucoup de reportages et j'aime bien qu'on se compare parce que tout est là. N'importe quel Français, n'importe quand, en une heure, a accès à son médecin de famille.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte que la France est différente. Bon, on parle souvent du fait qu'il y a plus de médecins, mais comme je vous disais tout à l'heure, la France est différente à plusieurs égards. Donc, les gens sont plus préventifs, il y a moins d'obésité. Les gens consultent moins en médecine, vont peut-être plus consulter en homéopathie, en ostéopathie. Donc, sont ouverts aux médecines alternatives et vont souvent essayer ça avant d'aller voir leur médecin. L'autre chose qui diverge en France, vous avez aussi beaucoup plus de soins à domicile qu'au Québec. Donc, vous avez l'urgence santé, là, en France, je me rappelle pas le nom, là, qui se déplace 4 millions de fois par année à domicile pour des interventions, soit par une infirmière, soit par un médecin.
Pourquoi on peut pas le faire, nous?
Ben, pourquoi pas, effectivement. Moi,
mais
je pense qu'il faut le faire.
Mais pourquoi on le fait pas?
Écoutez, je le sais pas. Il y a peut-être un manque de vision politique à ce niveau-là, mais c'est clair que...
Là, je t'arrête.
Bon, on n'a pas les effectifs peut-être pour...
Vision politique, moi, à moins que tu me fasses une démonstration incroyable, la santé, pour moi, relève des médecins. La santé, pour moi, relève des médecins, relève du Collège des médecins, de la Fédération des spécialistes. Ce sont en plus les gens qui sont supposés être les plus informés, les plus intelligents. Bref, c'est la crème de la crème. Et quand vient le temps de s'organiser, les bras m'en tombent à chaque fois. Je vais être brutal. C'est de la merde. Alors, comment t'expliques que des gens brillants qui se regroupent sont incapables de trouver la solution, par exemple, aux médecins de famille, alors que ça, c'est réglé dans plein de pays. Qu'est-ce qui se passe au Québec?
Ben, écoutez, premièrement, là, au Québec, on est toujours à part des autres. On a deux fédérations pour représenter nos médecins. On a une fédération pour les spécialistes, on a une fédération pour les omnipraticiens. Et ces gens-là se battent pour des enveloppes, une enveloppe globale d'à peu près 32 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on observe depuis des années, c'est que les budgets sont toujours à l'avantage des médecins spécialistes parce que les médecins spécialistes sont mieux organisés, plus revendicateurs, et ça a créé des fossés salariaux importants entre les médecins de famille et les spécialistes. J'écoutais le docteur Bernèche qui disait ce problème-là, c'est pratiquement réglé. Je m'excuse, il y a un écart de 57 à 58 % entre le salaire moyen d'un médecin de famille et le salaire moyen d'un spécialiste au Québec. Alors, c'est un méchant problème quand on pense qu'ailleurs, c'est à peu près autour de 15 à 20 %. Alors, ça explique pourquoi les jeunes ne veulent plus rien savoir de médecine familiale. Ça explique pourquoi davantage de médecins vont se former en spécialité. Mais pour revenir à votre question...
Retiens ce à quoi tu veux en arriver.
Oui, mais pas de problème.
Mais entre-temps, moi... Coudonc, est-ce qu'il va falloir éventuellement, parce que c'est bien joli, ces belles querelles-là, et puis bon, les médecins spécialistes, leur lobby est plus fort.
Oui.
Bon, c'est pas ça qui intéresse, bien sûr, le patient québécois.
Exact.
Et est-ce qu'il va falloir en arriver à imposer des quotas? Parce que éventuellement, je vous cacherai pas que si j'étais premier ministre et que j'avais tous les représentants médecins devant moi, je leur dirais écoutez, je vous donne encore 2 ans. Et après, enough is enough. S'il faut y aller par quota, on va y aller par quota.
La carotte, là, elle a été pas suffisamment utilisée. Le bâton, par contre, au Québec, on l'a depuis plusieurs années à l'égard des médecins. Je pense pas que c'est la bonne façon de fonctionner. Moi, je pense qu'il faut être incitatif. Mais pour être incitatif, faut changer la forme de rémunération avec laquelle on paye nos médecins. Les médecins au Québec sont payés à l'acte, la grande majorité. Et ils sont payés, je vous dirais, mal payés par acte. Les actes n'ont pas suivi la hausse des frais de pratique en cabinet depuis les 10-15 dernières années. Et ça fait en sorte que le médecin, lui, il est payé s'il voit plus de monde. Il n'est pas payé s'il voit mieux son monde. Il n'est pas payé s'il est plus rapide d'accès pour son patient. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte, par exemple, qu'un médecin de famille ait peut-être la moitié de son salaire annuel qui soit sous forme d'un forfait de prise en charge de clientèle, mais en contrepartie, il doit s'engager à être disponible à l'intérieur d'un délai. Il doit ouvrir un peu le soir. Il doit peut-être faire un peu de chiffre la fin de semaine. Je le sais pas. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait un forfait d'attribuer pour la prise en charge et le suivi de ces patients-là. Qu'il y ait de la rémunération à l'acte lorsque le médecin voit le patient ou ce qu'il fait une procédure. Je suis bien d'accord. Mais il faut qu'une bonne partie de la rémunération du médecin passe par la prise en charge réelle et non fictive. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que oui, les médecins ont des budgets pour avoir plus de médecins à leur charge, mais dans les faits, ils sont pas disponibles, ils sont pas capables de voir leur médecin. Moi, je suis au privé, ça fait 4 ans maintenant. 60% de mes patients là, qui viennent dans mes cliniques, on est rendu à 5 cliniques, ils ont déjà un médecin de famille. Donc, c'est bien beau d'être sur une liste à quelque part, mais il faut être capable de voir son médecin. Alors, il est là, je pense, le dilemme. Faut revoir la façon avec laquelle on rémunère et encourager dans cette rémunération-là la prise en charge de patients plus lourds. Parce qu'un patient lourd dans le système public à 20 piastres de visite, je m'excuse, il est pas payant. Un patient qui passe 40 minutes dans ton bureau puis qui te rapporte 20 $ là, t'en veux pas de ça. Tu veux des petites grippes, tu veux des cas faciles. C'est la façon avec laquelle on travaille au Québec à cause de cette rémunération-là qui a un effet pervers sur la pratique. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un problème important, je pense.
Bon, tu as évoqué à quelques reprises, il y a quand même, malgré ce qu'on dit, il y aurait un manque de médecins actuellement au Québec, et je serais d'accord avec toi. Au prorata de la population, il y a beaucoup plus de médecins en France qu'il y en a au Québec.
Mais aussi parce que, comme je vous dis, je le répète, le profil de pratique est particulier. Les médecins de famille au Québec prendre davantage en charge des actes spécialisés comme l'urgence, les accouchements, etc. Ils travaillent en établissement, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour le cabinet.
Mais pourquoi ils sont en établissement? Pourquoi ailleurs c'est pas comme ça? Pourquoi ici ils vont en établissement?
Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix, pourquoi?
Parce que le gouvernement leur impose. Un médecin de famille au Québec doit faire 12 heures par semaine d'activités de PREM, qu'on appelle des activités médicales obligatoires, des AMP, je m'excuse, que ce soit de l'urgence, des soins intensifs, des accouchements, des soins à domicile, du CHSLD, par exemple. Ça, c'est des activités où le médecin, pour avoir le droit à sa pleine rémunération en cabinet, en bureau, doit faire, pendant les 20 premières années de sa pratique, 12 heures d'activité obligatoire. Ça, c'est unique. Il n'y a pas ça nulle part au Canada.
Et ça vient d'où, cette manière de faire?
Ça vient probablement du fait qu'on veut que les médecins s'impliquent davantage au niveau de l'urgence, parce que, bon, c'est des endroits où c'est pas toujours facile à combler les horaires, etc. Et pour combler, ben, on a dit, ben, les médecins doivent faire au minimum leurs 12 heures dans le milieu hospitalier. Mais ce que ça fait, c'est quand un hôpital en ville recrute un nouveau médecin, vous savez que, mettons, vous êtes un hôpital, vous avez un nombre maximum d'effectifs que vous pouvez recruter dans une année. Alors, si vous avez deux médecins que vous pouvez recruter, qui allez-vous prendre parmi les 20 CV ou les 30 CV que vous allez recevoir? Vous allez prendre celui qui va vous donner davantage de temps à l'hôpital. Donc, vous allez prendre un médecin qui va peut-être travailler essentiellement à l'hôpital, il ne fera pas de cabinet. Alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en cabinet, contrairement en Europe ou ailleurs au Canada, les médecins offrent beaucoup moins d'heures, beaucoup moins de disponibilité. Et c'est le filet de sécurité du système de santé, ça, le cabinet. Vous n'êtes pas capable de voir votre médecin au cabinet pour votre grippe. Vous allez aller à l'urgence, puis ça va monter à 10, 15, 20 heures d'attente.
Bref, tu confirmes ce que je pensais, c'est mal organisé.
Oui, et puis moi, je veux dire, mon but, là, honnêtement, d'être ici aujourd'hui, moi, c'est pas à mon avantage de dire que les médecins devraient être mieux payés en médecine familiale. Je ne suis plus dans le réseau public. Et si les médecins de famille deviennent mieux traités, ils vont en avoir davantage, ils vont avoir moins de pénurie, donc moi, je vais avoir moins de travail. Alors moi, je suis pas ici pour mon intérêt personnel, mais je suis ici pour montrer que tant et aussi longtemps qu'on s'occupera pas de l'iniquité flagrante que les médecins de famille vivent au Québec et qu'on corrigera pas cette situation-là de façon claire, les problèmes vont perdurer.
Alors, je prends la photo un peu. Les urgences sont congestionnées. Les médecins de famille travaillent en urgence. Les urgences sont congestionnées parce que les patients qui normalement devraient aller une bonne, j'imagine, je sais pas quel pourcentage, mais on peut penser qu'un pourcentage significatif de ceux qui vont en urgence, s'il y avait accès à un médecin de famille, n'irait pas à l'urgence.
Au moins 50%.
Bon, alors je n'osais pas le dire, mais c'était ce que je pensais.
J'ai travaillé 10 ans en urgence, je peux vous le dire.
Alors 50% de ceux qui traînent et qui encombrent les urgences devraient normalement aller rencontrer un médecin de famille.
Exact.
Et par ailleurs, le système est organisé de telle sorte que on dit à ceux qui pourraient être médecins de famille, non, vous allez aller travailler dans les urgences. Mais tout ça vient des médecins. Tout ça, encore une fois, je voudrais, les décisions en médecine sont prises par des médecins.
En fait, je suis pas d'accord avec vous à ce niveau-là. Comme individu, comme médecin, on n'a pas beaucoup de pouvoir dans le système actuel. Les décisions sont prises par les administrateurs d'hôpitaux, par les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Et le médecin, je vous dirais, dans ce tableau-là, il n'y a pas beaucoup à dire. Hein. Contrairement, exemple, en Angleterre, où la grande majorité des décisions sont prises par les médecins eux-mêmes. Ici, les médecins, on prend leur opinion, mais on fait ce qu'on veut avec. Alors, les médecins n'ont pas vraiment de poids dans le décisionnel de leur hôpitaux, puis c'est ça qui est déplorable.
S'il n'y avait plus de médecins, déjà, on peut penser qu'il y aurait un premier pas en direction d'un meilleur accès à un médecin, quoi. Du fait qu'il y en aurait plus, mais c'est là, ça me ramène encore une fois aux fédérations de médecins, au collège des médecins. Ça a pris un temps fou avant qu'on augmente le nombre d'admissions dans les facultés de médecine de nos universités québécoises. Ça a pris un temps fou. Alors que tout le monde savait qu'on manquait de médecins, puisqu'on en manque encore aujourd'hui, alors qu'on admet deux fois plus d'étudiants en médecine aujourd'hui qu'on en admettait il y a une dizaine d'années.
Il faut pas oublier que la féminisation de la profession aussi fait en sorte que le profil de pratique est différent. Puis ça, faut le voir, puis faut le prévoir. Et on ne l'a pas fait. Les médecins vieillissent, comme vous le dites. Hein, l'âge moyen d'un omnipraticien au Québec d'à peu près de 57-58 ans. La population vieillit rapidement, donc on a de plus
toujours plus
besoin de soins.
Bon.
Et il va falloir être très créatif dans les prochaines années pour arriver à suivre la demande. Et moi, je pense que la meilleure façon, c'est de suivre un peu les exemples de pays scandinaves, de pays partout dans le monde, le CDE, qui utilisent des systèmes de santé mixtes. Je pense que le fait que le système de santé soit un monopole étatique, c'est malsain. On parlait tout à l'heure avec M. Pouliot de concurrence au niveau de l'énergie. Ça pourrait être la même chose au niveau de la santé. Dans l'éducation. On le voit dans l'éducation, ce que ça a fait les écoles privées. Ça a fait en sorte que le standard en éducation s'est peut-être élevé. Des écoles privées pour attirer les étudiants de bonne famille, de bonne qualité, ont créé des programmes sport-études, etc., ont rendu l'éducation de meilleure qualité. Et ça a fait en sorte que les écoles publiques, maintenant, sont obligées de suivre un petit peu la donne et offrir ce genre de programme-là s'ils veulent aller chercher les élèves.
Et là, ce qui est paradoxal, c'est que, bon, la France, qui est un pays de gauche, a beaucoup de médecine privée.
40 à 50 %.
Voilà, c'est énorme.
Puis ça, quand on dit ça aux Québécois, ils font les oreilles.
Et on ne le croit pas. Ou alors, on en parle à peu près jamais. Je serais curieux de savoir la proportion de Québécois qui savent qu'effectivement, en France, il y a une présence du privé considérable.
Très fort.
Bon. Mais alors, par ailleurs, le Canada, qui normalement est perçu comme un pays plutôt à droite, surtout avec le gouvernement qu'on a depuis une dizaine d'années, le régime de santé, il est d'abord canadien et on n'est pas très chaud à la présence. Il y a plein de contradictions dans ce pays. On n'est pas très chaud.
On veut le budget de la santé, mais on ne veut pas que le gouvernement fédéral s'immisce dans nos décisions.
Voilà. Alors, en même temps qu'on devrait être de droite avec, en tout cas au fédéral, c'est quand même un peu du fédéral que nous vient cette imposition, à savoir pas de privé en santé.
Oui, ben en fait, c'est il y a rien qui interdirait à la rigueur une province d'ouvrir la voie à un système beaucoup plus privé. Quand on parle de privé, c'est d'abord au niveau de la médecine en tant que telle, parce que oui, il y a des choses au privé au Québec et ailleurs au Canada qui fonctionnent très bien. Une partie du régime médicamenteux, une partie des vous parlez des opérations de la vie au laser. Il y a plein de secteurs d'activité comme ça qui sont occupés par le privé, mais dans le domaine médical, là, le privé n'occupe pas une grosse place actuellement. C'est très, très minime. Actuellement, c'est marginal. On en fait partie et éventuellement, ça va prendre davantage de place, à moins que le ministre Hébert nous mette une loi matraque dans les jambes, ce qui m'étonnerait énormément tout de même. Mais je crois, moi, que le système de santé aurait tout avantage à devenir mixte au niveau de la prestation. Et je pense que les gens en auraient davantage pour leur argent en ayant un système équilibré plutôt qu'un système monopolistique comme on a actuellement.
Docteur Marc Lacroix. On admet deux fois plus d'étudiants en médecine oui. Maintenant qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'on pourrait faire encore mieux?
Ben, moi, je pense pas tant qu'on en manque en termes de formation actuellement. Si la tendance se maintient, comme on dit, on devrait éventuellement arriver à un équilibre. Mais ce qui va arriver, c'est que les besoins actuellement vont tellement exploser rapidement.
C'est ça. La population vieillit et la population vieillit, ça nous coûte plus cher dans plein de secteurs. Mais en santé, alors là, carrément, c'est disproportionné. C'est bien connu que à mesure que t'augmentes en âge, c'est toujours davantage de coûts. Un 85 ans coûte infiniment plus cher qu'un 60 ans, qui coûte déjà plus cher qu'un 40 ans. Et des 85 ans, on va en avoir pas mal.
80-90% de vos soins que vous allez consommer, ça va être dans les dernières années de votre vie.
Voilà, exactement.
Alors, c'est là où ça coûte cher et c'est là que ça va faire mal au cours des prochaines années au Québec. Peut-être que les cohortes qui s'en viennent vont peut-être équilibrer ou tamponner un petit peu le problème, mais il faut pas oublier qu'il y en a là-dedans qui vont prendre leur retraite aussi entre-temps. Là.
Ben oui.
Et à travers de ça, la population qui vieillit à vitesse grand V, on va arriver à un moment où l'équation ne tiendra plus la route et à un moment où il va falloir être vraiment créatif dans notre façon de donner les soins à la population pour impliquer davantage les infirmières, faire en sorte que chaque médecin soit utilisé son plein potentiel, ce qui, à mon avis, actuellement, n'est pas le cas.
En tant que gérant d'estrade, j'ai plein de questions pour vous, M. Lacroix. Pour ce qui est des tâches, est-ce que vous êtes en faveur qu'on redistribue un peu de tâches aux pharmaciens, qu'on redistribue un peu de tâches aux infirmières?
Oui, certainement. D'ailleurs, chez nous, on veut donner davantage de place. Je viens d'engager une infirmière clinicienne, justement, que je veux intégrer. Je veux faire des soins à domicile à cette infirmière-là. C'est un nouveau projet qu'on a mis de l'avant. Cet automne, ça devrait gagner en popularité. Il faut impliquer davantage. Vous savez qu'en Ontario, il y a 1500 IPS, c'est des infirmières praticiennes qui travaillent actuellement. Au Québec, on en a 65. On est en retard de 2 trains. Là. Alors, il faut vraiment que ça bouge à ce niveau-là. Puis il faut que les infirmières aient le potentiel d'aller plus loin dans leurs actes, c'est certain. Même chose du côté des pharmaciens, de pouvoir renouveler certaines prescriptions pour accommoder les patients qui occupent des urgences dans bien des cas. Moi, des patients qui ont attendu 10-12 heures dans une urgence pour un renouvellement de pilules pour le cholestérol, là, j'ai vu ça. Là. Alors, ça n'a pas sa place dans une urgence. Ça engorge le système public. Et effectivement, ça peut être fait en pharmacie. Mais comme je le dis souvent, le pharmacien n'ayant pas de formation clinique, pourquoi ne pas engager des infirmières praticiennes ou des infirmières cliniciennes dans les pharmacies pour faire ces suivis d'hypertension, diabète, cholestérol, renouvellement de prescription pour les petits bobos courants? Moi, j'ai aucun problème avec ça.
Pour ce qui est des nouveaux médecins, avec mes gérants d'estrade, on discute souvent, là, puis il y en a certains qui me disent, bon, médecins, ils travaillent moins qu'ils travaillaient. Est-ce que vous constatez ça, les nouveaux médecins qui viennent de sortir, là, est-ce que vous constatez qu'ils travaillent moins puis qu'ils accordent plus d'importance à la famille, ils veulent passer plus de temps avec leurs proches, donc moins souvent au boulot?
Oui, c'est certain, mais c'est
les
pas
les femmes
pire.
Aussi, bien
oui.
Sûr.
Ben oui, pour les femmes, en général, leur vie familiale n'est pas à vendre. C'est des femmes, exact. Médecins comme spécialistes comme médecins de famille, là. C'est la même chose chez des deux côtés. les gens accordent beaucoup plus d'importance à leur santé, à leur vie familiale. On a appris des leçons du passé, les médecins qui à l'époque brisaient leur ménage. Vous savez, le modèle Dr. Wilby qui couche à l'hôpital, là, puis que sa femme couche avec le laitier. Là. Ça, on a vu ça longtemps, mais maintenant, c'est plus du tout ce genre de modèle-là qui est préconisé par les jeunes médecins. Donc oui, ça prend plus de médecins pour remplacer ceux qui, il y a 30 ans, travaillaient. Le médecin que j'ai recruté récemment, Dr. Roy, il a 62 ans, il suivait 2600 patients.
Eh boy!
2600 patients.
Alors que normalement, ce serait quoi?
La moyenne actuellement au Québec, c'est à peu près 700 par omnipraticien.
Il y en avait 4 fois plus, à peu près.
Voilà. Et puis, c'est un gars qui travaillait peut-être éventuellement de 70 à 80 heures par semaine. Alors, ce modèle-là, on le voit plus, on le voit, il y en a encore, mais on le voit de moins en moins. Donc, pour remplacer un médecin de l'époque, ça en prend peut-être 1,5 à 2 avec la nouvelle façon de travailler des jeunes médecins. Donc oui, c'est un problème important.
Comment ça fonctionne? Parce que nous, on n'est pas au courant de tout, là, bien entendu. Quand on sort de l'école, est-ce que c'est possible déjà d'aller travailler ailleurs ou encore faut faire un certain nombre d'heures au Québec avant de pouvoir s'exporter aux États-Unis, exemple?
Non, effectivement, c'est un des problèmes dont on n'a pas discuté, mais des facultés comme l'Université McGill, par exemple, ont des fuites majeures de leur finissant, par exemple en médecine spécialisée ou en médecine familiale, de l'ordre de 30, 40, 50. Là, je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est pas un de temps en temps. Là. On a des étudiants qui viennent des États-Unis, qui viennent des provinces anglophones ailleurs, qui viennent s'installer à McGill pour faire leur médecine à moindre frais et qui vont quitter la province immédiatement après leur formation. Puis, vous savez quoi? Ils sont même pas comptabilisés dans les statistiques de médecins qui quittent parce qu'ils n'ont jamais pratiqué.
Et McGill, précisément, McGill est une université très, très reconnue.
Très cotée.
Moins qu'avant, bien sûr. Ça a déjà été cotée une des 3 meilleures universités au monde. Et j'imagine que ça continue à jouer. Ce qui fait que quand tu finis en médecine de McGill, t'as aucun problème pour aller pratiquer n'importe où en Amérique du Nord.
Mais deux choses. Soit qu'on dit, on rentre en médecine, si vous faites vos études en médecine parce que vous bénéficiez de frais moins chers pour faire vos études, vous allez être engagé envers l'État peut-être 3 ou 4 ans.
Mm-hmm.
Ou encore, ce qu'on fait, puisque c'est la solution que je préconise, soyons attrayants. Faisons en sorte que non seulement on va retenir nos médecins conformes chez nous, mais on va peut-être en attirer de l'extérieur qui vont vouloir venir travailler chez nous parce qu'on va avoir pas juste des meilleurs salaires, mais des conditions de pratique enviables et des hôpitaux qui vont être à la fine pointe, qui vont rendre des services et qui vont attirer, comme on le disait tout à l'heure avec M. Pouliot, des gens de l'extérieur.
Exactement.
Le tourisme médical, il peut se faire chez nous si on le veut. Ouais. Ils offrons la qualité.
Oui, exactement. Faut être concurrentiel. Faut être meilleur, ce qui est pas le cas actuellement.
Ou peut-être des gens qui viennent des États-Unis qui veulent absolument venir étudier au Québec, leur charger un certain coût.
Oui, effectivement. Les étudiants de l'extérieur qui vont quitter, qu'on le sait, très probablement, peut-être devraient avoir des tarifs plus représentatifs.
Un
peu moins avantageux, disons. Mais c'est certain qu'il faut agir à ce niveau-là parce qu'on a beau en former. Si on en perd la moitié des étudiants de McGill, ça donne quoi déformer? C'est ça, là.
Ça va toujours bien à vos cliniques médicales?
Oui, ça va très bien. On recrute 2 nouveaux médecins cet automne. On a l'apnée du sommeil qui vient de partir. Ça fait peut-être 2 mois. Le feu est pris. On est en promotion actuellement sur l'apnée du sommeil.
C'est quoi l'apnée du sommeil? C'est incroyable. Hein? Je connais
c'est
quelqu'un
mode.
Personnellement qui c'est. Est-ce que c'est fréquent?
C'est assez fréquent, c'est peut-être 15% de la population qui en souffre.
15%, 1 sur 7.
C'est gros. Plus vous êtes gras, naturellement, plus vous avez de chances d'en faire. Si vous êtes un ronfleur, vous augmentez de 3 fois la chance de faire de l'apnée du sommeil. Le problème de l'apnée, c'est que ça donne des problèmes de santé secondaires. Hypertension, problèmes cardiaques, mort subite, problèmes pulmonaires.
Bon, c'est quoi l'apnée d'abord? Décris-nous rapidement.
L'apnée, c'est des blocages au niveau respiratoire, au niveau des voies respiratoires durant la nuit, qui nous réveille pas, mais qui crée ce qu'on appelle des micro-réveils. Donc, vous ronflez jusqu'à temps que, vous étouffez pratiquement en ronflant. Et là, parce que vous désaturez, votre taux d'oxygène dans le sang va diminuer. Puis là, votre bulbe rachidienne va envoyer un signal au cerveau de dire, faut reprendre le tonus, faut recommencer à respirer. Alors, vous allez reprendre votre sommeil plus léger jusqu'au moment où
vous
allez...
Quand tu te réveilles, tu dois paniquer?
Pas nécessairement. Les gens ne se réveillent pas, comme je vous dis. Puis, pour le conjoint ou la conjointe, dans certains cas, c'est épeurant parce que la personne va même arrêter de respirer une certaine période. Ça peut se répéter
pendant
comme ça 30, 40, 50 fois par heure. Donc, la nuit, c'est un combat pour vous. Là.
Vous arrêtez de respirer combien de temps?
Ça peut être quelques secondes à la 10-15 secondes. Et là, les gens se réveillent le matin, ils ont dormi 10 heures, mais ils ont l'impression d'avoir passé en dessous d'un train. Alors, ces gens-là arrivent au travail, ont de la difficulté à se concentrer. L'après-midi, ils vont être obligés pratiquement d'aller faire une sieste, vont s'endormir au volant.
C'est pas une maladie de vieux, ça?
Non. Je vous dis, j'en ai chez moi. Là, j'ai des patients dans la 30aine qui ont ce problème-là, qui prennent actuellement un CPAP, là, un appareil de voix de pression positive au niveau des respiratoires, là, des voies respiratoires, ça fonctionne très bien.
Mais en général, ce sont des gens qui sont obèses.
Ben, je vous dirais, vous avez beaucoup plus de risques d'en faire si vous êtes obèse, quoiqu'il y a quand même certains cas d'apnée centrale chez des patients très minces. On en voit rarement, mais ça existe. Donc, les gens qui sont fatigués, qui sont traités pour une dépression, puis coudonc, ça marche. Tu sais, beaucoup de patients, j'imagine que dans les dépressifs qu'on targue comme étant des dépressifs, il y a probablement 30, 40% des cas qui font à des degrés divers de l'apnée du sommeil, peut-être le double de la population générale. Donc, c'est un problème qui est important et c'est un problème qui est sous-diagnostiqué. Il y a à peu près 80% des gens qui font de l'apnée du sommeil qui ne le sont pas diagnostiqués. Donc, il y a un gros marché potentiel, si on peut dire, pour ce genre de clientèle-là. Et en même temps, il y a un avantage social à traiter ces gens-là parce qu'au niveau de la productivité puis de la qualité de vie, ça améliore énormément tout en prévenant des problèmes beaucoup plus sérieux. Donc, chez nous, on a décidé de mettre ça de l'avant puis ça va vraiment bien depuis 2 mois. Les gens, s'ils veulent des renseignements, peuvent appeler chez nous au 841-1911. Les gens vont vous donner des renseignements. On a tout ça dans un délai. À l'intérieur d'une semaine, on vous passe vos tests, alors que dans le réseau public, c'est plus d'un an.
Et si je vous donne une consultation rapide, normalement, faut que je perde une journée de job. Je peux-tu aller chez vous? Y a-t-il une clinique sans rendez-vous? Puis ça prend combien de temps?
Ben, normalement, nous autres, quand vous avez un forfait chez nous, là, on a différents forfaits, vous avez un rendez-vous à l'intérieur de 24-48 heures avec un de nos médecins.
Et c'est un rendez-vous précis.
Oui, exactement. Là, chez nous, il n'y a pas 40 personnes qui font la file à la porte le matin.
C'est
sur rendez-vous. Mais vous pouvez appeler le matin même, vous avez un rendez-vous la journée même. Donc, c'est quand même très efficace, très rapide. Et comme je vous dis, nous, on offre aux gens de l'accessibilité rapide, du temps avec eux, puis on s'occupe de toute la globalité de leur santé, prévention, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de popularité. On ouvre d'ailleurs cet automne, en tout cas sur la fin de l'été, notre 5e clinique en Beauce, à Sainte-Marie.
Vous êtes rendu à 5, là, au Québec?
Oui, on en a 5, puis on a d'autres projets qui s'en viennent. On a aussi 2 médecins qui s'en viennent avec nous à l'automne. Donc, disons que ça bouge beaucoup, beaucoup pour
Montréal,
nous.
Montréal, Saguenay, est-ce que c'est des marchés qui vous intéressent?
On travaille sur un dossier à Saguenay pour l'été prochain. Et Montréal, il y a des gens qui m'ont appelé, mais à date, on n'a rien de très sérieux. Mais disons que ça, c'est dans notre mire, mais pas dans le court terme. Là. Mais c'est certain qu'on va éventuellement avoir une clinique là. Puis nous, étant donné qu'on fonctionne en réseau, ce qui est le fun, c'est que vous êtes membre d'une clinique à Québec, vous allez à Montréal, vous allez à Saguenay, vous allez en Beauce, ben vous allez avoir les mêmes services, vous allez pouvoir utiliser tous vos services, que, peu importe la clinique où vous allez aller.
Donc, pour en savoir plus, vous êtes sur Internet, cliniquemédicalelacroix.com.
Exact.
Docteur Lacroix, merci d'être passé.
Ben, merci beaucoup à vous.
Docteur Marc Lacroix, des cliniques médicales Lacroix.